Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfois.
Bonjour, Daniel Morfois, en votre compagnie pour le Grand Orient de France. J'ai le plaisir de recevoir ce matin un avocat parisien à la tête d'un cabinet spécialisé dans le droit de la culture et presque un habitué de ces ondes. Emmanuel Pierrat, bonjour.
Bonjour Daniel Morfois.
Vous êtes non seulement avocat, membre du Grand Orient de France, mais auteur prolifique de très nombreux ouvrages. Et c'est pour l'un d'eux, paru il y a quelques mois, que j'ai le plaisir de vous recevoir ce matin. Son titre est malheureusement explicite, « Nouvelle morale, nouvelle censure » au pluriel, et je dirais que sa lecture m'est apparue presque indispensable. En effet, vous recensez de très nombreux exemples de ces censures, et je vais vous faire un aveu, j'ai l'impression que nous nous habituons trop bien à ces épisodes de censure, parce qu'à vous lire, on prend conscience qu'on avait déjà oublié certains de ces événements, pourtant récents, hein, ils sont tous de ces dernières années. Alors, est-ce moi qui suis oublieux ou devenons-nous moins sourcilleux devant les atteintes à la liberté d'expression, Emmanuel Pierrat ?
Non, vous n'êtes pas plus oublieux que la majorité de nos concitoyens, Daniel Morfois, même si vous êtes un esprit éclairé et que vous suivez de près l'actualité et le sort de la culture. Il se passe simplement que les moments où nous nous émouvons publiquement des atteintes à la liberté d'expression sont rares. C'est à la fois rassurant d'avoir l'impression qu'ils sont rares et de nous réveiller peu souvent, et en même temps très inquiétant parce que cette torpeur nous donne l'illusion que rien n'est grave et que toutes les interdictions, finalement, sont tolérables. Le dernier grand réveil républicain, vous vous en souvenez, nous y avons participé, c'était un dimanche de janvier en 2015, lorsque la censure a pris la forme de Kalachnikov. Lorsque les journalistes de Charlie Hebdo ont été assassinés, lorsque aussi, il faut jamais oublier, la policière de Montrouge a été assassinée par les mêmes frères Kouachi, et le surlendemain, c'est l'hypercachère qui a été visé et meurtri. Ce moment, nous l'avons vécu parce que cela nous a tellement choqués et indignés que nous sommes descendus à 7 millions dans les rues le dimanche matin pour rappeler notre fraternité et notre amour dans la République et dans la liberté d'expression. Le lendemain, dans les écoles, on a rappelé aux enfants, lors d'une minute de silence, à quel point ces valeurs étaient importantes. Mais le reste du temps, ce ne sont pas des Kalachnikovs, heureusement, et j'allais dire cyniquement, malheureusement. Ce sont des dommages et intérêts, ce sont des renoncements, ce sont des autocensures, ce sont des interdictions légions à certains artistes ou à certains auteurs de s'exprimer parce que leur vie privée est éventuellement en contradiction avec l'image qu'on attendrait d'eux. C'est la mémoire qu'on oublie, c'est le passé qu'on veut cacher de notre histoire républicaine, française. Ce sont des atteintes qui se traduisent par des poursuites au tribunal, par des demandes de boycott, par des pétitions en ligne qui ne nous paraissent pas aussi graves, et pourtant elles le sont, que les attaques par des Kalachnikovs et des terroristes dûment répertoriés comme des fous dangereux.
Dans votre énumération, vous oubliez malheureusement les pressions morales aussi exercées sur les réseaux sociaux, notamment. Et quand on en reste aux réseaux sociaux, on s'en tire déjà bien.
La concentration économique, la censure économique, beaucoup d'autres phénomènes, pardonnez-moi de vous interrompre Daniel Morfois, qui rajoutent à ce tableau qui fait qu'il y a chaque année en France plusieurs centaines d'œuvres, de textes, d'images, plusieurs milliers, d'ailleurs d'après moi comme avocat spécialisé, qui sont censurés, bannis du paysage. Je vous en prie.
Tous les aspects de la culture et toutes les formes de la liberté d'expression sont concernés.
Oui, aucun domaine n'y échappe. C'est la littérature qui est passée au prisme des couleurs morales de 2019. On s'interroge aujourd'hui sur les pamphlets de Céline, légitimement, pour savoir s'ils peuvent ressortir ou pas. Mais au-delà de ça, c'est une relecture complète qui est faite de la littérature. Aux États-Unis, on interdit en ce moment, dans certaines écoles, dans certains États, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Oui, ou la case de l'oncle Tom, de Harper Lee. Harper Lee pour ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et la case de l'oncle Tom, avec le même principe qui est qu'un personnage dit à un moment des mots qui nous heurtent, qui nous heurteraient s'ils étaient prononcés par un de nos concitoyens dans un bus ou dans une réunion ou dans un bar. Ce sont les mots de nègre, ce sont des termes racistes, péjoratifs, mais qui sont employés dans une fiction, qui sont employés par des personnages qui eux-mêmes sont ou racistes ou appartiennent à leur époque. Et aujourd'hui, on bannit ce passé qu'on ne saurait voir, alors qu'il faut le comprendre, l'expliquer aux enfants, être capable, nous, en adultes, d'y réfléchir, de mettre un appareil critique, des notes, un explicatif, pour dire pourquoi ce terme était utilisé par tel personnage dans une fiction ou par tel auteur dans tel contexte. Alors, donc, nous relisons la littérature, nous relisons le cinéma. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, à l'automne 2017, avait eu l'initiative malheureuse et très vite arrêtée d'enlever les cigarettes des personnages de fiction du patrimoine cinématographique français. On n'aurait plus eu, alors dans une chose un peu imagée, dans les Tontons Flingueurs, plus personne n'aurait bu d'alcool, plus personne n'aurait fumé. Ce qui faisait un film très 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 insipide ou aseptisé par rapport à ce que Audiard avait écrit. On aurait retiré du patrimoine hollywoodien la cigarette d'Humphrey Bogart dans Casablanca. Voilà, ce sont des atteintes qui ne nous font pas descendre demain matin dans la rue, mais qui sont une relecture du patrimoine artistique, cinématographique, culturel. La musique, les arts plastiques, tout y passe.
Oui, et certains nous font même rire alors qu'on devrait en pleurer. Je pense à la modification de la fin de l'opéra de Bizet, Carmen, où il n'est pas question d'applaudir à l'assassinat d'une femme d'après le metteur en scène qui a changé le livret.
Un metteur en scène a le droit de changer un livret et de réécrire un opéra. Ça ne me pose pas de souci. Ça fait partie de la liberté de création et de la liberté de mettre en scène quelque chose qui appartient au domaine public. Là où c'était très compliqué et très choquant, c'est que ce metteur en scène italien, on est à l'été 2018, a écrit qu'il changeait la fin de façon à ce qu'on n'applaudisse pas un féminicide. C'était le terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas applaudir au meurtre d'une femme, en l'occurrence Carmen. Et donc, par conséquent, il a réécrit, non pas pour un point de vue esthétique, artistique, mais parce qu'il considère que, dans une grande confusion mentale, le public à l'opéra, selon lui, applaudirait le meurtre. Mais à l'opéra, on n'applaudit pas le meurtre d'une femme. On applaudit la mise en scène, le talent des chanteurs et des chanteuses. On applaudit les costumes, on applaudit le brio de la mise en scène, le magnifique, la maestria du maestro, du chef d'orchestre et des musiciens. Et il ne viendrait pas à l'idée, dans Carmen ou dans la Traviata, de considérer que nous applaudissons les maladies vénériennes ou les meurtres. Voilà une nouvelle morale, une nouvelle censure. Totalement erronée, mais qui fait des dégâts épouvantables parce que, par ailleurs, elle vient du camp du bien. C'est-à-dire, elle vient pas des ennemis de la culture, elle vient du sein même de la culture, d'un chef d'orchestre, d'un metteur en scène, de gens qui participent à, on va dire, l'édification culturelle dans le sens le plus noble du terme.
Quelles sont les instances, les associations qui sont à l'origine de ces demandes de censure ?
La censure, classiquement, jusqu'aux années 80, c'était le ministère de l'Intérieur. Le procureur Pinard, célèbre pour, en 1857, avoir poursuivi Madame Bovary,
Baudelaire, de Flaubert,
voilà. En janvier, Baudelaire en juillet pour les Fleurs du Mal et Eugène Sue en novembre. La censure, elle a pris un visage nouveau dans les années 80 avec des associations intégristes, religieuses, liées à l'extrême droite et à l'intégrisme catholique d'une part, et puis de l'autre côté, des associations intégristes musulmanes, des associations intégristes religieuses, globalement. Moi, j'ai défendu Michel Houellebecq pour des propos qu'on peut juger malheureux, mais c'était pas la question, en 2002, sur l'islam, et ces associations voulaient rétablir le délit de blasphème, c'est-à-dire faire condamner un auteur qui s'en prend à une idéologie, et non pas à des êtres humains, et non pas à des personnes identifiées. Alors, aujourd'hui, ce passage, ces associations sont toujours très virulentes, mais elles se voient doublées par d'autres associations que nous apprécions, qui sont des associations républicaines de lutte contre le racisme, qui, au motif qu'elles luttent contre le racisme et l'antisémitisme, qui est une cause très importante, d'un seul coup s'en prennent à la littérature et à la culture. Et c'est ainsi que, lorsque j'ai défendu Michel Houellebecq, à côté de la Ligue islamique mondiale, qui prenait l'application de la charia sur le territoire français de la République, il y a eu la Ligue des droits de l'homme qui, d'un seul coup, oubliant l'article premier qui vante la liberté d'expression, venait en demandant la condamnation de Michel Houellebecq. Et on voit bien le danger qu'il y a par une forme de bien-pensance, de valeur que nous apprécions, à se tromper de combat et à ne pas poursuivre véritablement le racisme, mais à s'en prendre à la culture dès qu'elle évoque un passé, des idées, qu'elle met en scène des personnages de fiction qui n'ont pas l'heure de nous plaire. Mais les personnages de fiction ne sont pas là pour tous être des héros gentils qui correspondent à nos valeurs. Ils sont là pour susciter l'imaginaire et la création.
Ce qu'il faut déplorer, c'est que ces associations obtiennent assez souvent, et peut-être trop souvent, ce qu'elles souhaitent, même si c'est sous la forme de jugement. Vous y avez un peu fait allusion tout à l'heure dans votre énumération, mais même si c'est la forme de jugement, somme toute modérée, limitée, je pense notamment en littérature au fait qu'un paragraphe, non pas une œuvre entière, puisse être interdit, qu'il y ait une demande de modification. Qu'est-ce que ça produit, sinon la réussite de la censure ?
Il faut bien comprendre, et vous l'avez bien pointé, Daniel Morfois, que chaque attaque portée contre la création et contre la liberté d'expression est une attaque qui coûte cher, même quand on réussit à déjouer l'attaque. Même quand on réussit à gagner un procès, même quand on réussit à calmer une polémique, il restera des dégâts importants, des frais engendrés, une peur, ce qui conduira sans doute aussi à l'autocensure. Il y a un phénomène qui fait que même si vous obtenez une relaxe ou si vous déboutez vos adversaires au tribunal, cela aura coûté des frais d'avocat, comme moi, cela aura coûté beaucoup de travail pour préparer la défense, vous aurez ensuite des précautions à prendre, vous vous inquiéterez de ce que vous allez faire, vous inquiéterez aussi de la sécurité des gens qui travaillent dans une galerie d'art, dans une entreprise culturelle. La culture, c'est l'économie du boulon, c'est rien. Une station de radio comme France Culture, un journal comme Le Monde ou La Dépêche du Midi, une galerie d'art et un musée, c'est une économie de beaucoup moins de zéro que les géants de l'industrie automobile ou pharmaceutique. Donc chaque attaque, chaque frais engendrés est très important. Une condamnation de base au tribunal, c'est 10 000 euros. 10 000 euros, ça représente 3 livres dans un catalogue d'éditeurs. Donc si vous êtes condamné à 10 000 euros, plus les frais que vous avez dû engager pour vous défendre, vous retirez 5 à 6 livres dans votre catalogue l'année suivante. Même si vous n'êtes pas condamné, vous en retirez 3 économiquement par le temps et l'énergie et l'argent que vous avez investi pour vous défendre. Donc c'est ça le véritable danger. Cette censure qui ne nous indigne pas parce qu'elle est moins violente et moins sanguinolente que les attentats contre Charlie Hebdo, est néanmoins extrêmement dangereuse parce qu'elle tue par l'argent, très libéral, par la demande de dommages et intérêts, la culture. Les dommages et intérêts sont le nouveau visage de l'Inquisition. Lorsque je dois me battre face à l'Opus Dei, qui demande l'interdiction de romans policiers mettant en scène des cinglés de l'Opus Dei qui peuvent devenir assassins. Alors c'est soit Dan Brown, soit des livres plus intéressants littérairement. À chaque fois, l'Opus Dei ne demande plus l'interdiction des livres, il nous demande 1 million d'euros de dommages et intérêts. Et ce faisant, même s'ils ne les obtiennent pas, ils obtiennent la mobilisation du temps, de l'énergie, des coûts importants du côté de la création et des auteurs littéraires qu'ils choisissent de poursuivre.
Vous insistez, Emmanuel Pierrat, sur le fait que même les défenseurs de la liberté d'expression finissent par contribuer à ce système de censure en pratiquant, comme vous l'avez évoqué, l'auto-censure.
Bien sûr, c'est là le grand danger et c'est là la victoire parfaite de nos adversaires. Ces gens commencent par faire des procès. Ils perdent bien souvent ces procès, heureusement, mais au prix, je l'ai dit, de grands efforts pour se défendre et rappeler que la liberté d'expression est un principe apporté par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aujourd'hui porté par les déclarations importantes et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais une fois qu'on a gagné cela, ces gens ne désarment pas. Ils ont, pour Charlie Hebdo, passé les procès mille feux l'année suivante ou 2 ans plus tard à Charlie Hebdo. Et puis parce que le feu et l'incendie n'avaient pas suffi pour assécher ou assainir la situation selon eux, ils sont passés au Kalachnikov. La peur suscitée par les procès, la peur suscitée par leurs pétitions en ligne, et vous avez bien fait de pointer les réseaux sociaux tout à l'heure, et Facebook et Twitter qui sont des appels à la haine permanents, à la fois de magnifiques possibilités de s'exprimer, une grande liberté d'expression, et le revers, c'est 17% de messages de haine en commentaires sur les réseaux sociaux. Cette peur, cette ambiance, finissent par provoquer au sein même des entreprises culturelles, entendues comme des entreprises du service public ou privé, peu importe, des galeries, des musées, des éditeurs de livres, de journaux, la volonté et de trier, de ne pas prendre de risques. Après les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu nombre d'organisations, de musées et d'expositions qui ont annulé leur programme. Je m'en souviens très bien, j'ai été sollicité, le salon du dessin de presse à Caen a été non pas totalement annulé, mais largement modifié par rapport au programme initial. Des expositions d'artistes qui mettaient en scène des escarpins avec des tapis de prière ont été annulées soudainement par des municipalités qui ont eu peur. C'est ce recul permanent de l'autocensure. La ville de Paris elle-même, il y a quelques années, dans une exposition de Larry Clark, cinéaste et photographe américain très connu, avait censuré certaines images et interdit aux moins de 18 ans d'aller dans le musée d'art moderne de la ville de Paris. Ce qui revient à donner raison à nos adversaires et à ceux qui luttent pour la fin de cette immense liberté dont nous jouissons aussi en France et qui est très minoritaire aujourd'hui sur la planète. La liberté d'expression, c'est une valeur, un bien que nous avons en commun, mais qui malheureusement n'est pas beaucoup partagée sur le reste du globe.
Oui, ce triomphe de nouvelle morale, on l'a aussi un peu vu lorsque on a entendu des gens dire que, suite à Charlie Hebdo, que évidemment c'était dramatique, mais que ils avaient abusé dans un retournement vraiment écœurant, les victimes devenez les responsables. Emmanuel Pierrat, je rappelle le titre de votre ouvrage, Nouvelle morale, nouvelle censure, paru, je crois, en octobre, en novembre, chez Gallimard. Donc on peut recommander la lecture, parce que c'est vrai qu'on va se remettre en tête un grand nombre d'événements et susciter la réflexion, et y compris dans un travail sur soi, parce que nous ne plaçons pas sur le même plan toutes ces censures et toutes ces interdictions. Il me reste à espérer vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission du Grand Orient de France. Et puis à remercier France Bleu Nord qui m'accueille chaleureusement dans ses studios. Et à Paris, Dany Journaud et les équipes techniques de France Culture. Bon dimanche, à bientôt.
Merci à vous, Daniel Morfois.
Au revoir, Daniel. Au revoir. Thank you.